Avec les enfants de l'école biblique, nous lisons donc la Bible une fois par mois. Nous étudions la Bible et le premier trimestre, nous lisons dans le Premier Testament. Cette année, nous allons commencer avec l'histoire de David. James et moi, nous vous proposons de prendre, pour ce temps de culte ensemble, l'histoire de David, qui est alors un petit berger et qui va lutter contre Goliath, un géant de près de 3 mètres de haut, nous dit l'Écriture, qui est suréquipé et surentraîné. Alors c'est dans le premier livre de Samuel, au chapitre 17. Les Philistins réunirent leur armée pour faire la guerre. Les Philistins étaient sur la montagne d'un côté et Israël était sur la montagne de l'autre côté, juste la vallée les séparait. Un homme sortit alors du camp des Philistins et s'avança entre les deux armées. Il se nommait Goliath, il était de Gath et il avait une taille de 6 coudées et un empan. Sur sa tête était un casque de bronze. Il portait une cuirasse à écailles dont le poids faisait 5000 sicles de bronze. Il avait aux jambes aussi une armure de bronze et un javelot de bronze entre les épaules. Le bois de sa lance était comme une ensouple de tisserand et la lance pesait 600 sicles de fer. Et il fallait quelqu'un pour porter son bouclier marchant devant lui. Le Philistin s'arrêta. Et s'adressant aux troupes d'Israël rangées en bataille, il leur cria « Pourquoi sortez-vous pour vous ranger en bataille contre nous? Ne suis-je pas le Philistin et n'êtes-vous pas simplement les esclaves du roi Saül? Choisissez un homme qui descende contre moi. S'il peut me battre et qu'il me tue, alors vous serez nos esclaves. Mais si je l'emporte sur lui et que je le tue, alors vous serez nos esclaves et vous nous servirez. » Le Philistin dit encore, « Je jette donc en ce jour un défi à l'armée d'Israël. Donnez-moi un homme, un champion, et nous nous battrons ensemble. » Saül et tout Israël entendirent ces paroles du Philistin et ils furent fort effrayés, saisis d'une grande crainte. Le Philistin s'avança matin et soir, tous les jours, pendant 40 jours. Finalement, David dit à Saül, « Que personne ne se décourage à cause de ce Philistin. Ton serviteur ira se battre contre lui. » Saül dit à David, « Mais tu ne peux pas aller te battre contre ce Philistin, car tu n'es qu'un enfant, et lui, il est un homme de guerre depuis qu'il est bébé. » David dit à Saül, « Eh bien, ton serviteur faisait paître les brebis de son père. Et quand un lion ou un ours venait en enlever une du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la brebis de sa gueule. Et s'il se dressait contre moi, je le saisissais par la gorge, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a terrassé le lion et l'ours, et il en sera de même du Philistin, de cet infidèle, comme l'un d'eux, car il a insulté l'armée du Dieu vivant. » David dit encore, « C'est l'Éternel qui m'a délivré de la griffe du lion et de la patte de l'ours, qui me délivrera aussi de la main de ce Philistin. » Et Saül dit à David, « Eh ben va, et que l'Éternel soit avec toi. » Mais quand même, Saül fit mettre ses vêtements à David. Il plaça sur sa tête son casque de bronze, il le revêtit de sa cuirasse, et David porta l'épée même de Saül par-dessus ses habits et il essaya de marcher, mais il n'y arrivait pas, car c'était trop lourd. Et il dit à Saül, « Je n'arrive pas à marcher avec cette armure, je n'y suis pas habitué. » Il s'en débarrassa. Il prit à la main son bâton de berger. Il choisit dans le torrent 5 pierres polies, 5 galets, et il les mit dans son sac de berger et dans sa poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le Philistin s'approcha peu à peu de David et l'homme qui portait son bouclier, bien sûr, marchait devant lui. Le Philistin regarda et lorsqu'il aperçut David, il le méprisa, ne voyant en lui qu'un enfant, un blondinet, d'une pâle figure. Le Philistin dit à David, « Mais est-ce que je suis un chien pour que tu viennes avec moi ainsi avec un bâton ?» Et après l'avoir maudit au nom de ses dieux à lui, il ajouta, « Viens vers moi et je te donnerai ta chair aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. » David dit aux Philistins, « Tu marches contre moi avec une épée, avec une lance et un javelot, et moi je marche contre toi au nom de l'Éternel des puissances, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Et aujourd'hui, c'est l'Éternel qui te livrera entre mes mains. Je t'abattrai, je te couperai la tête, et aujourd'hui, je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve, car la victoire appartient à l'Éternel lui-même, et il vous livre entre nos mains. » Aussitôt, le Philistin se mit en mouvement pour marcher contre David. David courut sur le champ de bataille à la rencontre du Philistin. Il mit sa main dans son sac de berger, il y prit une pierre, la lança avec sa fronde, et il frappa le Philistin en plein front. La pierre s'enfonça dans la tête du Philistin qui tomba le visage contre terre. Et ainsi, avec une fronde et une pierre, David fut plus fort que le Philistin. Il le terrassa, lui ôta la vie, sans même avoir d'épée à la main. Ô Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Alors, pour laisser le temps de raisonner ce texte formidable de la Bible, je vous propose de chanter ensemble le psaume 33 dans le psautier français, les strophes 1, 2 et 5, « Réveille-toi, peuple fidèle, ressuscite, peuple fidèle, pour avancer. » Désormais, mon Dieu, c'est toi que j'aime, toi auquel je m'attache, toi que je veux suivre, parce que toi seul as droit d'être mon Dieu. Je désire être ton enfant. Parle, je te prie, et dis ce que tu voudras, je sais que ce sera bon. Mais guéris et ouvre seulement mon intelligence, afin que je puisse entendre tes paroles. Guéris et ouvre mes yeux, pour que je puisse voir la beauté de ton projet et te reconnaître, toi, mon Dieu. Enseigne-moi les moyens que je dois prendre pour aller vers toi, mon Dieu. Et j'espère alors pouvoir accomplir ce que tu me diras. Je ne demande qu'une chose, c'est que ton puissant pardon me convertisse à toi, afin que rien en moi ne s'oppose à tes efforts pour me donner la vie. Fais que je sois pur, bienveillant, juste et prudent, que j'aie l'amour et de toi et de mon prochain que tu me demandes d'aimer. La Bible est le livre le plus vendu au monde depuis que l'imprimerie existe en Europe. Il y a bien le catalogue IKEA qui dépasse depuis quelques années la Bible en nombre d'exemplaires diffusés au monde, mais ce catalogue est ensuite jeté à la poubelle alors que la Bible est précieusement rangée dans nos bibliothèques. Peut-être un peu trop précieusement rangée, alors qu'elle est faite pour devenir toute fatiguée par l'usage que nous en faisons. Mais en fait, ce n'est pas si facile de lire la Bible, et donc nous avons parfois une excuse que cette Bible soit bien rangée, trop bien rangée. Ce n'est pas que ce soit difficile techniquement de lire la Bible, parce qu'on s'y fait en fait assez bien. Mais plusieurs personnes m'ont dit être gênées de prendre la Bible pour la lire, pour l'étudier devant les autres. Quand on est vu en train de lire un roman, dans le métro, à la plage, le soir, ça va. Si on lit l'Iliade et l'Odyssée, ça fait sérieux. Mais si quelqu'un attrape la Bible et la lit, la scrute, l'étudie, cherche les mots, il arrive qu'il subisse des regards un peu en biais de la part des autres personnes. Alors comment est-ce que c'est possible? Alors que la Bible est certainement une des sept merveilles de la littérature mondiale. C'est un livre de philosophie et de littérature absolument riche, profond. C'est aussi un outil génial pour mieux se connaître, se découvrir soi-même, pour se poser tout un tas d'excellentes questions qui aident à avancer, qui aident à réfléchir, mais aussi pour nourrir notre foi et notre prière, notre recherche de Dieu. Alors pourquoi est-ce que ça semblerait bizarre de lire la Bible dans le métro, à la récréation ou après le dîner ? Ce n'est pas que la Bible ait moins de valeur qu'il y a 100 ans, bien sûr. Ce serait aussi idiot que de dire que l'Iliade et l'Odyssée est tout d'un coup devenu un livre nul. Mais à mon avis, c'est plutôt notre faute à nous, chrétiens. Car le christianisme a changé, en fait. Depuis quelques dizaines d'années, il y a deux courants principaux qui se développent dans le christianisme. Alors il y a les fondamentalistes, hyper motivés pour Jésus, considérant que la Bible est à la lettre, la parole même de Dieu, au point que quand leur lecture traditionnelle de la Bible contredit la science, eh bien ils affirment que c'est la science qui se trompe et que leur lecture traditionnelle est la vérité. Et puis il y a les libéraux, qui ont une façon d'interpréter la Bible qui est parfois intelligente, qui est proche de celle que le monde fait, de l'Iliade et de l'Odyssée par exemple, personne ne croyant qu'il existe des cyclopes, un énorme géant qui vit dans des grottes avec un seul œil au milieu du front, ou des sirènes qui sont là pour attirer par leur chant les navigateurs. Mais nous lisons ces textes de l'Iliade et l'Odyssée comme une figure du réel, et nous faisons la même chose finalement de la Bible. Alors, où est le problème entre ces deux courants qui sont les plus visibles, qui marchent le mieux dans le christianisme ? Eh bien, ce n'est pas forcément très facile. Les fondamentalistes, ils ont un bel enthousiasme pour pratiquer la Bible, mais le risque, c'est qu'ils la ridiculisent en voulant forcer les gens à prendre à la lettre ces récits de la Bible, qui ne sont pas faits pour être lus comme ça, en fait. Et ils essayent de motiver leurs fidèles par la menace d'un Dieu qui est encore plus féroce que le terrible Goliath. Les libéraux, eux, l'inconvénient, c'est qu'ils ont parfois une lecture très intelligente de la Bible, mais à force de désacraliser la Bible, ils risquent de ne plus s'investir dans la lecture de la Bible, de ne plus y mettre leur tripe, leur être, leur espérance, leur vie tout entière. Et puis à quoi bon, finalement, quand on est libéral, puisque Dieu nous aime, finalement, et nous aimera de toute façon, ce qu'est la vérité. C'est ce que montre et c'est ce que dit le Christ. Il y a donc du bon et du mauvais dans les deux courants, si vous voulez, des deux courants les plus vivants du christianisme. Ce qu'il faudrait, ce qui rendrait honneur à Dieu, à la Bible, à la foi, c'est qu'il y ait plus de personnes pour combiner le meilleur des deux courants, finalement. Avec à la fois l'ardeur des fondamentalistes, pour travailler la Bible, pour chercher la puissance de Dieu, l'action de Dieu dans leur vie, et puis la liberté de recherche et la confiance dans l'amour de Dieu des progressistes. Eh bien, ça existe et c'est possible. Par exemple, Paul Ricoeur. Il est reconnu en France et à l'étranger comme un des plus grands philosophes du XXe siècle. Ayant lu et même compris, ce qui n'est pas une petite affaire, et même assimilé tout ce qui a pu s'écrire comme philosophie depuis l'Antiquité jusqu'à nos jours. Eh bien, ce Paul Ricoeur, il lisait la Bible, il allait au culte à Robinson, bien que complètement débordé par ses cours, ses conférences aux quatre coins du monde, ses cours à l'Université de Chicago, l'écriture de sa myriade de livres, et c'est à la faculté de théologie protestante, petite faculté de théologie, qu'il va léguer tous ses manuscrits, ses livres annotés, plutôt que de les léguer à la Sorbonne, à la Bibliothèque nationale, qui en aurait fait un trésor. Alors que pouvait-il trouver, lui, à encore creuser ainsi dans la Bible, passionnément ? Eh bien, certainement quelque chose que rien d'autre ne peut apporter. Nous pouvons donc allier une vraie réflexion et un enthousiasme pour lire la Bible. Alors la Bible n'est donc pas réservée aux fous de Dieu, ni aux personnes qui croient encore aux contes de fées. Ce n'est pas seulement un livre plein de massacres et de miracles absurdes, c'est un livre tout simplement génial, qui peut apporter une vraie force, un enrichissement extraordinaire à toute personne, même la moins cultivée, la moins intellectuelle, jusqu'au plus grand des philosophes. Comme le dit saint Augustin, en fait, la Bible, c'est un livre qui veut grandir avec les petits. Il n'y a donc qu'à ceux qui se croient déjà assez grands qu'elle n'apporte plus rien. C'est vrai qu'il existe malheureusement des interprétations de la Bible qui tentent de la faire passer pour une sorte de conte de fées. Par exemple, ce récit de David et Goliath, il peut donner l'occasion de dire au monde « Le Dieu Tout-Puissant vous donnera la victoire contre tout le mal possible en ce monde, magiquement, miraculeusement. Mais pour ça, il faut avoir assez de foi, il faut prier assez fort, il faut aller assez à l'église. » Avec pour preuve de David, un simple petit berger, un enfant, qui a pu battre un géant de 3 mètres, suréquipé, surentraîné. Alors le problème, c'est que cette interprétation, elle est fausse et elle est cruelle pour ceux qui souffrent. Même avec la plus grande des fois, même avec une prière incessante, hyper sincère, des catastrophes peuvent s'abattre sur nous et sur ceux que l'on aime. Et cette théorie du Dieu Tout-Puissant participe ainsi à ridiculiser Dieu devant le monde. Alors ensuite, des athées comme Michel Onfray, qui font mine de ne connaître la Bible que par les pires de ses lecteurs, ce qui m'étonnerait beaucoup en fait, il est plus intelligent que ça, eh bien les athées comme ça ont beau jeu ensuite de ridiculiser l'étude de la Bible et la foi en Dieu. Mais la Bible est bien plus fine que cette théorie simpliste. Alors oui, cette histoire de David, elle dit que Dieu agit dans le monde, qu'il agit dans notre vie. Dieu guide des Samuel pour les faire avancer. Il nous permet de remporter des vraies victoires contre le mal, comme David. Cette histoire nous dit qu'avec l'aide de Dieu, oui, nous sommes capables, tels que nous sommes aujourd'hui. Avec nos armes, avec nos forces, avec notre taille, nous sommes capables de faire des miracles qui auraient été absolument hors de notre portée sans Dieu. Alors cette expérience de l'aide de Dieu face au mal, ce n'est pas qu'une vague promesse, ce n'est pas un conte de fées depuis que l'homme n'est plus seulement une sorte de singe. Dans toutes les cultures, sous tous les continents, l'homme fait l'expérience que Dieu est véritable secours dans son existence. Mais cette histoire de David, elle ne nous dit pas simplement la force de Dieu et les miracles qu'on peut faire avec lui. Mais cette histoire de David, elle nous dit aussi la faiblesse de Dieu. Loin de gouverner toute chose, nous le voyons tâtonner dans cette histoire. Vous pourrez la relire, vous qui n'êtes pas à l'école biblique, comme les enfants qui la liront donc cet après-midi. Dieu se laisse surprendre par des événements non prévus. Son plan met du temps à se réaliser quand il se réalise, ce qui n'est pas toujours le cas. Si ce livre de David avait voulu mettre en scène un Dieu qui sait tout, un Dieu qui prévoit tout à l'avance, un Dieu qui peut tout, magiquement, cette histoire aurait été racontée autrement. Elle aurait montré un Dieu, d'abord, qui impose au peuple de ne pas avoir un roi, parce que Dieu savait très bien, et il le dit, que c'est une mauvaise idée. Non, le Dieu de ce livre, eh bien, il cède devant le peuple. Mais même alors, il cède parce qu'il est gentil. Même alors, un Dieu tout-puissant, il aurait au moins choisi quelqu'un de bon et non ce pauvre Saül qui devient fou par le pouvoir qui lui est donné. Pourtant, Dieu l'avait couvert de sa bénédiction. Il avait été oint d'huile par Samuel lui-même. Alors que se passe-t-il? Eh bien, la Bible nous dit que Dieu reconnaît avoir fait une erreur en choisissant Saül et en le nommant. Et quand Dieu veut ensuite désigner David comme roi, Dieu a de la peine à guider Samuel à tâtons, parce que Samuel ne regarde qu'aux apparences au lieu de regarder au cœur. Si Dieu avait été tout-puissant, s'il avait été efficace pour faire avancer le bien contre le mal, il aurait pu envoyer sa bénédiction du ciel directement sur David, dans un événement spectaculaire, par exemple avec le ciel qui s'ouvre, avec de la fumée, de la lumière, avec une voix divine, avec des milliers d'anges couverts de plumes qui arrivent. Alors même les Philistins seraient tombés à genoux, ils se seraient convertis, ils seraient devenus gentils, tout le monde se serait embrassé au lieu de s'entretuer férocement. Ils vécurent heureux, ils eurent beaucoup d'enfants, nous disent les contes de fées. Mais non, ce texte nous montre un Dieu qui aime, un Dieu qui écoute, un Dieu qui accompagne, un Dieu qui fait tout ce qu'il peut pour faire avancer les choses avec nous. Et oui, ce n'est pas facile, même pour Dieu. D'ailleurs, David sait bien, lui, que Dieu est une vraie force, mais que la prière ne suffit pas face à un lion dévorant, face à un ours féroce ou face à un immense guerrier des forces spéciales. David sait que Dieu est à ses côtés, mais il va quand même s'équiper, lui aussi, à sa façon. Alors il se porte volontaire pour améliorer le monde, lui, le petit. Même si ça fait bien rigoler Saül, le grand roi, oui, ça fait rigoler les rois des rois, ceux qui se prennent pour le roi des rois. les rois de la théologie, rois de la vérité ultime et éternelle, rois de la vraie religion, rois du bon Dieu, du vrai Dieu, du Christ et du prophète réunis. Eh bien oui, nous, le petit David, nous pouvons avoir notre opinion, notre relation à Dieu, notre équipement, notre vocation pour lutter contre le mal à notre façon. Pourtant, le petit David que nous sommes est digne de cette vocation personnelle. Et il s'y prépare. Le texte nous dit qu'il ramasse 5 pierres. Comme le remarquent des théologiens, depuis des millénaires, le nombre de 5 est sans doute une allusion à la Bible elle-même, puisque la Torah a 5 livres et que c'est très fréquent, cette allusion par le chiffre 5 à la Bible. Si ce n'était pour nous donner cette piste, pourquoi est-ce que le récit aurait précisé ce nombre de 5 pierres alors qu'une seule va finalement être utilisée pour terrasser Goliath? Eh bien, c'est pour nous donner une piste d'interprétation qui était fort claire pour les lecteurs de l'époque. Pour se préparer, David donc fréquente la Bible. Il choisit avec soin lui-même ces 5 pierres polies par les années, roulées par le torrent. Et c'est exact qu'une des grandes richesses de la Bible, outre le fait que bien des textes qui la composent sont absolument géniaux, c'est qu'ils sont polis par des milliers d'années de réflexions, de discussions, de débats et d'interprétations multiples. Mais c'est ensuite à nous de prendre en main cela, cet héritage, de piocher dedans, de choisir, de sélectionner les bonnes pierres qui vont bien dans notre main finalement, qui vont bien dans notre fronde, pour notre force, pour nous-mêmes, pour la situation qui est la nôtre. Alors une autre personne devra choisir d'autres pierres peut-être, d'autres interprétations, d'autres styles. Mais nous sommes ici invités à un travail biblique personnel. Et c'est d'ailleurs de telles armes que Jésus va utiliser dans son combat contre la tentation qui est racontée dans le début des évangiles. Jésus, comme nous tous, est assailli par la tentation de se prendre lui-même pour Dieu, au-dessus de Dieu, et même de prendre son estomac pour Dieu en faisant des miracles pour se nourrir. Mais Jésus est armé, comme notre David ici, d'une bonne connaissance de la Bible, et c'est par la Bible qu'il va avoir victoire contre ce mal. Ce que David a retenu de la Bible ce jour-là, nous dit le texte, il le place dans son sac de berger et dans sa poche. Mais ensuite, c'est bien précisé que c'est finalement du sac de berger qu'il va prendre la bonne pierre, la pierre juste qu'il va lancer contre le Philistin et qui va en avoir victoire. C'est que le métier de berger n'est pas n'importe quel métier dans la Bible, en fait. C'est pour ça d'ailleurs que Dieu est comparé à un berger. Le berger est réputé pour sa compassion, pour chacune de ses brebis. On l'a entendu dans le texte, puisque David va courir sauver la moindre brebis des griffes du lion. Même la plus mal en point, il va chercher à la nourrir, la soigner, l'aimer, garder chacune. Donc le berger est connu pour sa compassion. Et le berger est connu pour sa relation directe avec Dieu. Oui, dans la nature, on n'est pas comme nous dans un temple, on n'est pas, il n'y a pas les rites religieux. Il est directement dans sa prière, dans sa louange libre, sincère, personnelle, face à Dieu. Nous sommes donc invités à creuser la Bible, à choisir, à retenir ce qui va nous convenir à un moment donné, à en mettre une partie en réserve dans notre poche, un peu en vrac, mais à en faire passer une partie aussi de ces textes, de ces interprétations, dans notre sac de berger, pour un travail de prière et de compassion, de louange à Dieu, de pensée aimante pour ceux qui nous sont confiés, et qu'ainsi ces pierres soient encore roulées, retournées, polies dans notre sac. Et puis nous pouvons, comme David, nous équiper de notre bâton de marche, car c'est à ça que lui sert ce bâton, pas à se défendre, c'est les pierres qui servent à se défendre. Goliath, lui, il fait du surplace. Le peuple hébreu aussi est comme figé de stupeur face à cette insurmontable danger qui le menace pendant 40 jours, comme Jésus d'ailleurs face à ses tentations. Et si David avait accepté la magnifique armure de Saül, il n'aurait pas pu avancer. Oui, bien des lourdeurs de l'Église, lourdeurs des religions, de nos codes, de nos choses toutes prêtes, sont magnifiques, sont royales, mais nous empêchent d'avancer. David, lui, il reste léger pour être mobile. Alors s'équiper d'un bâton de marche, c'est être conscient qu'il va falloir avancer, mais qu'on va peut-être trébucher en marchant, que nous nous sentirons peut-être parfois déstabilisés dans cette marche, mais que ça vaut le coup d'avancer parce que cette mobilité est essentielle, cette mobilité est la vie en fait, et que c'est comme ça qu'on va faire avancer le monde. Alors ce bâton de marche est à l'image de la grâce de Dieu qui nous garde, nous pourrons toujours nous appuyer dessus, et finalement, c'est ça qui nous permet d'avoir le courage, la liberté d'avancer, de rechercher, de tracer un chemin. Alors oui, David, dont le nom signifie « le bien-aimé », il a cette confiance qu'il pourra toujours s'appuyer sur Dieu dans sa marche, parce qu'il est le bien-aimé de Dieu, que nous sommes le bien-aimé de Dieu, qu'il nous a reconnus, qu'il nous a choisis, qu'il nous a bénis personnellement. Alors nous ne sommes pas bien-aimés parce que ceci ou cela, nous ne sommes pas non plus bien-aimés pour faire ceci et cela, mais nous sommes bien-aimés tout court. Et c'est fort de cela que David a le courage de s'avancer et d'affronter Goliath. Mais comment David a-t-il appris à trouver ainsi la bonne pierre, la lancer avec tant de force et d'adresse, pile là où il faut ? Eh bien, il l'a appris, nous dit-il, dans son travail de berger, face à des lions et à des ours, en voulant aller sauver une brebis. Et donc c'est dans son travail de berger, dans ce travail de prière simple et vraie, dans ce travail de compassion quotidienne pour les plus petits, c'est là que David a appris ça. Ou plutôt, il l'a appris dans les limites extrêmes de ce travail de berger, au-delà des forces normales. C'est ainsi qu'on se forge une expertise, finalement, dans la lecture de la Bible, dans la prière, dans notre cheminement. C'est en repoussant nos limites, en cherchant vraiment, par effort, à avancer dans cette découverte de la foi, de la prière, de la Bible. Lisant, creusant la Bible, rapprochant des textes, lisant d'autres livres, passant notre propre interprétation à l'épreuve de la vie réelle, de la compassion et de la prière, méditant sans cesse l'amour de Dieu pour nous, pour les autres, pour chacun. Et ce travail passionné, ardent, bien sûr, c'est à chacun de le faire pour lui-même, pour s'équiper, non de l'armure d'un autre, mais de son simple bâton de marche et puis de la bonne pierre qui nous convient avec notre sac de berger. Oui, de retravailler ces textes avec notre compassion, notre prière, avant de pouvoir sortir la pensée qui va être efficace face au mal qui est devant nous. Alors le mal quotidien qui peut nous ronger, peut-être aussi de temps en temps dans notre existence, un terrible Goliath que nous croiserons peut-être un jour malheureusement, mais pas forcément. Et de taper alors, dans la vie quotidienne, comme dans les jours extraordinaires, pile poil exactement en plein front, c'est-à-dire à la source même, finalement, du mal, en un seul coup. Bien sûr, ce sera aussi grâce à Dieu, car à tous les stades de cette histoire, il a accompagné David pour qu'il puisse être ce qu'il est et avoir le courage qui l'anime. Il nous faudrait donc avoir... Et l'ardeur des évangéliques, si vous voulez, se passionner pour la Bible, pour les autres et pour Dieu, comme si notre vie en dépendait, la vie présente et la vie future. Et combiner cette ardeur à l'expertise des progressistes, qui peuvent avancer d'une façon toute personnelle dans la liberté que donne seule la confiance en Dieu, ce Dieu qui nous aime sans condition. Alors les Goliaths, il ferait bien alors de partir en courant plutôt que de rigoler du Dieu vivant et du petit David que nous sommes. Amen.